Merci d'écouter RFI, il est 5h, ici à Paris 6h, à Kiev et à Moscou.
Martin Guèze.
Un dernier tranche cessez-le-feu de 30 heures a pris fin cette nuit à minuit entre la Russie et l'Ukraine, l'un des très rares moments de répit dans cette guerre à grande échelle n'en était pas vraiment un. Volodymyr Zelensky fait état de plus de 2000 violations. Moscou relève plusieurs attaques ukrainiennes. Pas vraiment de quoi inciter à l'optimisme pour un futur arrêt des combats. Nous serons ensuite dans l'océan Indien pour le début de la tournée d'Emmanuel Macron qui coche ce matin la case Mayotte sur son plan de vol. En Centrafrique, la candidature de Faustin Archange Touadéra à un troisième mandat se précise tandis que le pouvoir en place ouvre le dialogue avec l'opposition. Vous l'entendrez. Enfin, c'est le printemps pour le FMI et la Banque mondiale. De grandes réunions qui s'annoncent bien moroses pour le climat. La guerre en Ukraine a-t-elle vraiment connu une pause? La trêve express décrétée samedi soir par la Russie a pris fin dans la nuit après 30 heures de cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui n'en avait que le nom car le président ukrainien Volodymyr Zelensky pointe d'innombrables violations. Moscou fait état d'attaques ukrainiennes dans la région de Donetsk et sur plusieurs villes frontalières. De quoi semer le doute sur la possibilité d'une trêve plus durable à l'avenir. Michael Ponge.
Mouvement de drones, bombardement, au total Volodymyr Zelensky accuse Moscou d'avoir violé cette trêve plus de 2000 fois, en particulier du côté de Pokrovsk dans l'Est, mais le président ukrainien le reconnaît, aucune frappe aérienne n'a été menée par la Russie pendant ces 30 heures de pause, laissant ainsi apparaître un front plus calme qu'à l'ordinaire. Pour sa part, Moscou évoque des tentatives infructueuses d'attaque sur ses positions dans la région de Donetsk, plus de 400 tirs d'artillerie et plus de 900 attaques de drones, des actions militaires ukrainiennes aussi contre les régions russes frontalières dans lesquelles des civils ont été tués ou blessés d'après les officiels russes qui se sont empressés de doucher toute perspective d'accalmie durable. Vladimir Poutine n'a pas ordonné de prolongement de la trêve pascale au-delà de son expiration, a précisé le porte-parole du Kremlin. Quand Volodymyr Zelensky, lui, a profité du contexte pour soumettre à nouveau sa proposition, prolonger de 30 jours cette trêve. Tout cela démontre en tout cas la difficulté à trouver un terrain d'entente alors que les négociations pour une paix durable n'avancent pas, ce qui n'empêche pourtant pas Donald Trump d'espérer un accord entre les deux pays dans la semaine.
Explication signée Michael Ponge, des négociations dans l'impasse alors que les différentes tentatives d'instaurer un cessez-le-feu depuis le début du conflit à grande échelle en février 2022 ont toujours échoué. La Russie contrôle aujourd'hui environ 20% du territoire ukrainien et annonce avoir repris la quasi-totalité des territoires occupés depuis l'été dernier par les Ukrainiens dans la région russe de Koursk. Au Proche-Orient, l'armée israélienne reconnaît une erreur et des fautes professionnelles après cette fusillade qui a fait 15 morts. Qu'un secouriste palestinien du Croissant-Rouge tué fin mars à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Une enquête interne israélienne a conclu que les soldats n'avaient pas ouvert le feu à l'aveugle. L'armée qui dit toutefois regretter les victimes collatérales et qui a annoncé le limogeage d'un officier. Un rapport dénoncé comme mensonger et truffé d'erreurs par le Croissant-Rouge. Cette tuerie avait provoqué une vague d'indignation partout dans le monde et le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme avait évoqué un possible crime de guerre. Et puis toujours au Proche-Orient, au Yémen, cette fois les rebelles houthis font état de 12 morts lors de frappes imputées aux États-Unis sur la capitale Sanaa, deux jours après des raids nocturnes américains qui ont fait 80 morts dans le port pétrolier de Ras Issa. Le porte-parole du patron de l'ONU, Antonio Guterres, se dit gravement préoccupé par la multiplication de ces frappes. Direction l'océan Indien, à présent pour le début de la tournée d'Emmanuel Macron. Avant la réunion Madagascar et Maurice, le président français qui arrive ce lundi à Mayotte, 4 mois après s'y être rendu, au lendemain du passage du cyclone Chido, un cyclone qui a totalement dévasté l'archipel et qui avait fait 40 morts ainsi que des milliers de blessés. Les entreprises mahoraises sont encore pour beaucoup à l'arrêt et elles jugent les aides de l'État très insuffisantes. Particulièrement touchés, les établissements recevant du public. Notre correspondante Lisa Morisseau a rendu visite à une restauratrice dont l'activité est menacée. Reportage.
Notre salle de restaurant est complètement détruite, donc elle était là.
Depuis 12 ans, Nadine Matokong est la gérante du Paris 13, un restaurant à Mamoudzou. Aujourd'hui, la salle principale est en ruine. La gérante attend l'indemnisation des assurances. Les travaux de reconstruction n'ont pas commencé et elle n'a aucune perspective pour relancer son activité.
Et l'entreprise n'a pas de revenus puisqu'on a eu des aides qui couvrent les charges fixes jusqu'au 20 janvier à peu près, puis c'est tout. Et sinon, l'activité partielle pour les salariés, donc c'est pas suffisant du tout.
Elle a obtenu 5 000 euros dans le cadre d'une aide exceptionnelle, mais si celle-ci n'est pas renouvelée, elle craint de mettre la clé sous la porte. Avant Chido, les petites entreprises étaient déjà fragilisées par les multiples crises qu'a connues le territoire, notamment les barrages qui ont bloqué l'île début 2024 et les difficultés liées à l'eau. Fahardine Mohamed, le président du MEDEF Mayotte, demande un renouvellement des aides.
Nous, on demande la reconduction. C'est beaucoup d'activités qui sont complètement fermées. Mais s'il n'y a pas d'aide, minime qu'elle soit, mais là c'est encore une désolation, c'est encore la fermeture de toutes les activités concernées, en tout cas sur le territoire.
Les acteurs économiques espèrent être entendus par le président de la République aujourd'hui. Lisa Morisseau, Mayotte, RFI.
Mamoudzou, où Emmanuel Macron doit atterrir vers 8h30, heure locale, début d'une tournée de 5 jours dans l'océan Indien.
RFI à Bangui, 99.8 FM.
RFI, les 4h05 à Bangui, la Centrafrique. Le pouvoir se dit ouvert au dialogue avec l'opposition à quelques mois de l'élection présidentielle qui se tiendra en décembre prochain. Information confirmée à RFI par Fidel Kwanjika, ministre conseiller spécial du président Faustin Archange Touadéra. Et si le chef de l'État centrafricain se dit pour l'instant concentré sur les affaires internes, sa candidature à un troisième mandat ne fait plus beaucoup de doutes. Candidature à laquelle s'oppose l'opposition qui a annoncé une prochaine manifestation, Paul Lorgerie.
Faustin Archange Touadéra l'avait déjà annoncé à demi-mot le 30 mars dernier. Lors d'un discours donné à l'occasion du 4e anniversaire de son 2e mandat, le président centrafricain avait déclaré tendre la main au bloc républicain pour la défense de la Constitution afin de consolider la paix par le dialogue. Selon son conseiller spécial Fidel Kwanjika, des membres du gouvernement ainsi que d'autres institutions républicaines seront chargés d'impulser ce dialogue. Mais je cite, nous attendons du BRDC les points qu'ils souhaiteront aborder pour que le gouvernement se mettent au travail, nous confie M. Kwanjika. Un nouveau signe d'apaisement envers l'opposition. Vent debout contre un potentiel troisième mandat du chef de l'État. Le 26 mars dernier, le président a désavoué son ministre de l'Intérieur en lui ordonnant d'autoriser une marche de l'opposition prévue le 4 avril. Marche que le ministre avait pourtant interdite la veille. Le 17 avril, le coordinateur du BRDC, Maître Crépin Boligumba, s'est montré ouvert à l'idée d'un dialogue tout en dénonçant une posture médiatique faite pour tromper, argumentant que le chef de l'État est, je cite, contraint à donner des gages à la communauté internationale. En attendant, le leadership du BRDC a annoncé l'organisation d'une nouvelle manifestation le 31 mai.
Explication signée Paul Lorgerie. On reparle de la Centrafrique ce matin avec Fidel Kwanjika, le ministre conseiller spécial du président, qui sera notre grand invité Afrique à retrouver au micro de Christophe Beaubouvier à 5h45 et 6h45 temps universel et sur notre site internet rfi.fr. Le Venezuela juge cynique la proposition provocatrice de Nayib Bukele, le président salvadorien, qui a proposé un échange de prisonniers à son homologue Nicolas Maduro, un échange entre les 252 Vénézuéliens incarcérés au Salvador après leur expulsion par les États-Unis contre des prisonniers politiques détenus au Venezuela. Les expulsions de migrants vénézuéliens vers le Salvador qui ont été suspendues ce week-end par la Cour suprême américaine. Et puis enfin, c'est le printemps pour le FMI et la Banque mondiale, les deux plus grandes institutions financières internationales qui tiennent leur traditionnelle réunion annuelle dans un contexte n'incitant pas vraiment à l'optimisme. Les prévisions de croissance sont en baisse et la question du financement américain de ces institutions alimente beaucoup d'inquiétudes et le dossier climatique semble relégué au second plan, ce qui ne rassure pas du tout David Rayfish, expert en finance climatique au sein de l'ONG allemande German Watch. Il est à Washington pour ces réunions de printemps.
C'était le cas au cours des dernières années, mais cette année, compte tenu de l'incertitude créée par l'administration américaine, ce ne sera pas le dossier central. Cela dit, le climat jouera un rôle important à travers d'autres sujets comme la sécurité, la prospérité économique ou la viabilité de la dette. Nous voyons déjà que les impacts du changement climatique se font sentir partout et ils touchent à ces questions. Au cours des deux dernières années, nous avons fait d'importants progrès en ce qui concerne la réforme de la Banque mondiale et dans une moindre mesure du Fonds monétaire international. Maintenant, il est important de protéger ces évolutions pour qu'elles ne soient pas détricotées par l'administration américaine. Par ailleurs, les États-Unis ont un droit de veto dans les deux institutions. Et cela signifie que s'il y avait une intention de réformer davantage, ils pourraient bloquer un large éventail d'actions supplémentaires. Il revient donc aux pays progressistes de s'assurer de conserver les acquis et de permettre à la Banque mondiale de les mettre en application.
David Rayfish, joint par Pauline Glaise. On termine par un mot de foot. La semaine noire de l'Olympique Lyonnais, éliminé en Ligue Europa par Manchester United, est battu par le rival Saint-Etienne hier, battu 2-1 en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Voilà, RFI 5h10, ici à Paris tout de suite. Un jour au village.